Tatapum! Bonjour, bonjour et bienvenue pour le 50e épisode de Tatapoum. Alors ce soir dans nos studios, qu'avons-nous ? Des vétérans de l'antifascisme qui ont chanté « La jeunesse emmerde le Front National » quand ils étaient jeunes. On a aussi des gens qui ont chanté « Être né quelque part » de Maxime Le Forestier quand ils étaient bourrés. On en a plein qui ont pogoté sur les clashs. On a ceux qui ont crié « Nos passaranes » pour un nom ou pour un nom. On a des binationaux, des islamo-gauchistes, des anarcho-punks et tout le monde, eh bien, énervé. Quant à moi, je vous préviens tout de suite, j'ai passé une nuit à flipper que les fascistes arrivent au pouvoir. Je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que dans mon rêve, on entendait du Wagner sur l'ensemble de la bande FM. Et en plus, il y avait un tank garé devant chez moi. Je suis donc d'une humeur massacrante. La peur du bleu marine altère peut-être mon jugement. Je crois que je vais pas aimer grand-chose ce soir. Je rejoins donc les tontons ronchonchons, puisque ce soir, autour des micros, autour des boutons, nous aurons donc Guillaume, Mathieu, Arnaud, Héloïse, Cédric, Marion et Bibi. Ce soir, nous irons de Portland à Lyon, en passant par Londres pour terminer à Leeds. On parle tout de suite de Cut Piece. Cut Piece, et c'est Arnaud qui nous a choisi un premier extrait de leur album. Ça s'appelle All of Power. Et ben voilà, ça c'était donc Cut Piece qui sort un album Your Own God, et c'est Arnaud qui nous en parle.
Ouais, donc c'est un groupe de Portland sur la côte ouest américaine, un super groupe comme on dit maintenant. Il y a des membres de Red Dance, Peace Test, Erablique, Petite, Dials, que des pointures. Vous en connaissez peut-être un, en tout cas moi j'en connaissais absolument aucun. Et pourtant ça a l'air d'être des pointures sur cette côte américaine. On a donc Laura Camaretto au chant, Zach Brooks à la guitare, Samantha Gladue à la basse et Marie Esquivel à la batterie. Le tout sort sur le très bon label Total Punk. On a déjà chroniqué plusieurs sorties de ce label, Cherry Chicks et Curlies. Et une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel, parce que je n'ai absolument rien trouvé d'autre sur le net. Donc présentation aussi rapide que l'album, qui dure 23 minutes. Vous en apprendrez peut-être plus aux auditeurs que moi lors de vos chroniques, mais j'ai plus grand chose à dire sur la présentation parce que j'ai rien trouvé. Côté son, après plusieurs écoutes, je ferais volontiers écouter cet album à quelqu'un qui cherche à savoir ce qu'est la scène hardcore américaine, parce que c'en est un très bon exemple. Tout est en place, pied au plancher, très bon techniquement. Guillaume va pas me contredire, je pense, là-dessus. Variation de rythme, une voix qui scande des textes qu'on imagine très engagés. Au passage, il y a les traductions qui figurent également sur le Bandcamp. Mais encore une fois, à part de comprendre qu'ils sont vraiment pas contents, j'ai pas saisi toute la teneur juste des propos. Mais c'est très engagé comme leur musique. Et pourtant, je vais faire mon tonton ronchonchon. J'ai pas entendu le titre qui retourne l'album, qui me fait chavirer. Et qui me ferait peut-être le remettre en boucle. Alors j'ai dû l'écouter plusieurs fois quand même pour le chroniquer, mais je passe à côté après plusieurs écoutes. C'est très bien, vous avez sûrement le dire tous à tour de rôle, mais c'est pas surprenant. Mais je n'arrive pas à trouver le titre qui me fait réécouter l'album. Guillaume le dit souvent, avec tout ce qu'on écoute, on a le droit d'exiger le meilleur, et là, c'est très bien, mais ça restera pas pour moi un album que je réécouterai plus tard, je pense. Comme sûrement avec nos députés, on a le droit de vouloir la crème, et là, dernièrement, on a quand même eu la crème brûlée. Je vais vous laisser en dire du bien. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cet album.
Guillaume.
Parce que vient de prononcer Arnaud, pas grand chose à dire de ce disque, bien trop faiblard pour mériter que je m'y attache. Voilà mon ressenti à son écoute, où l'exécution générale peine à convaincre, tant il n'y a dans ce que proposent les cupices, rien qui n'émerge d'autre que la fadeur habituelle des bières que s'enfile Mathieu concert après concert. Le groupe se contentant d'égrener le chapelet d'un garage punk banal et donc sans grande valeur. Alors, les enchaînements sont hyper conventionnels et malgré les efforts énergiques de la chanteuse, l'ensemble des compos matraque sans jamais emballer. Typiquement un exemple de groupe sans talent et sans inspiration.
Bah Guillaume, non franchement, d'ailleurs Mathieu nous le faisait remarquer, ça manque souvent de voix féminines dans notre programmation, en voilà une et pas des moindres avec Cut Piece. Alors c'est vraiment encore une tuerie qui sort sur le label Total Punk. On avait déjà chroniqué Cherry Cheeks ou Curlays, vraiment il y a des choses très très intéressantes qui sortent sur ce label. Il y a une autre truc qui fait que c'est bien un groupe de ce label, c'est qu'ils ont fait une pochette d'une laideur affligeante, mais la pochette a dû être faite en moins de 2 minutes, qui est 2 minutes, c'est la durée des morceaux de cet album. Moi, parfois, je suis un peu comme toi, Guillaume, je suis un peu saoulé par le manque de nuances dans le punk, un peu comme si les groupes avaient peur que si jamais ils peaufinent un peu, ça ressemble à la fin du Prokofiev, quoi. Mais là, je vais faire une grosse exception, quoi. C'est brutal, c'est bourrin, c'est sans fioritures, chaque morceau ressemble au précédent, la chanteuse n'a manifestement qu'une corde à son arc et t'engueule une chanson plus qu'elle ne te la chante, mais... Le tout est fait avec une énergie dingue et du coup vraiment j'adore, j'écoute cet album de bout en bout et à la fin je le remets au début. Cédric.
Ah bah oui, moi je trouve qu'on attaque assez fort dans cette émission avec du punk sans post, egg ou je ne sais quoi, on est dans du punk. Et c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant ce label Total Punk et cette scène de Portland qui semble être un peu le centre de devenir la capitale du punk états-unien. Alors, quand on dit super groupe, bon, on est toujours un peu réticent, évidemment, parce que on imagine un peu parfois des groupes ennuyeux qui se reposent sur les acquis, où chacun essaie de faire le malin, de tirer la couverture à soi, et ça donne souvent pas grand chose. Ici, je trouve que ça marche bien. C'est peut-être parce que les groupes qui composent le super groupe étaient pas des groupes vraiment très connus. Finalement, c'est un groupe, quoi. Mais peut-être pas très connu au-delà de Portland, mais c'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est la rage de la chanteuse qui est intacte sur tout l'album. Bon, des paroles radicales. Alors certes, Arnaud, tu disais pas content, mais on comprend pas toujours. Bah un peu finalement, comme ta critique. Hein. Il y a un peu ton sur ton, quoi là. Moi, je trouve que les musiciens jouent pied au plancher avec je trouve quand même une dextérité un peu plus subtile que ce qui n'y paraît. On entend même des solos de guitare, alors je vous rassure quand même, pas très longs, mais qui fonctionnent pas mal, quoi, comme sur Walk the Dog, par exemple. En gros, je trouve qu'il n'y a pas de grâce sur cet album qui nous entraîne vers du punk hardcore du début des années 80. Et le titre, je sais pas trop comment on prononce, Gucci, quelque chose comme ça, le dernier titre, accompagné de sax en arrière-fond et cette phrase martelée « j'abandonne le fait de céder », ce titre-là pourrait rapidement devenir une sorte de tube punk. Et en fait, c'est un peu en écoutant tout cet album qu'on a envie de rien lâcher.
Mathieu, te voici dans ta zone de confort.
Alors oui, je suis dans ma zone de confort, mais je dois avouer être un peu déstabilisé depuis deux émissions, parce que alors Arnaud nous a arraché notre flambeau du papier ronchon à Guillaume et à moi, et donc il habite le rôle avec passion. Hein, il est plein de mauvaise foi, il raconte n'importe quoi, donc ça c'est vrai. Je suis un peu déçu. Parce que Guillaume, il se met à critiquer des groupes, même quand ils sont pas français. Ça, franchement, dire qu'un groupe américain manque de talent, c'est rare que tu le dises. Souvent, il y a un prérequis. Mais effectivement, comme tu l'as dit, Pierre, je suis dans ma zone de confort. C'est un punk à son clair, un chant féminin. Donc effectivement, on n'a pas assez dans Tatapoum. Ça, je le dirai jamais assez. Chant féminin qui est pas trop forcé. Alors Arnaud, tu parlais de hardcore, mais en tout cas les rythmes ils sont quand même pas très élevés. Pour moi, que demander de plus? Moi j'aimerais bien les voir sur scène, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient déjà passé l'Atlantique. J'espère qu'ils le feront.
Eh bien, que demande le peuple? Un deuxième extrait de l'album de Cut Piece, avec le titre éponyme Your Own God. Toujours sur Tatapoum, et on vient d'écouter un extrait de Cut Piece. On va passer à The Scanner, et Mathieu nous a sélectionné un premier extrait, ça s'appelle Satellite Rain.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Voilà, 1 minute 7 pour le premier extrait de The Scanner, et c'est Mathieu qui nous les présente.
Voilà, The Scanners, c'est un quatuor lyonnais qui existe depuis 2016, et c'est leur troisième album qui s'appelle LP3, après le premier album qui s'appelait The Scanners et le deuxième album qui s'appelait The Scanners 2. On fait pas dans la difficulté. Je vais remonter le temps et je vais avouer que je les avais vus au Petit Bain il y a 5 ans et j'avais pas du tout été convaincu par la faute d'un clavier qui était bien trop mis en avant et qui était insupportable. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Depuis, j'ai eu le temps de revenir sur la discographie du groupe et ce troisième album confirme tout le bien que je peux en penser, étonnamment.
Étonnamment.
Un garage synth-punk, alors en anglais, avec un accent qui est pas dégueulasse. Pierre, ça te dit rien, mais ça c'est pas grave. Ou en français. Et ce garage synth-punk, il peut déboîter, mais aussi il peut être plus posé. Par exemple, Zero Gravity, le titre le plus long est relativement calme. Pour moi, c'est un beau produit. C'est bien réussi. Les morceaux, ils sont plutôt addictifs. Alors je parle rarement des pochettes parce que l'image c'est pas mon truc, mais là je trouve que la pochette est assez belle, hein, entre réalisme soviétique et anticipation des années 50-60. Et voilà, je voulais juste ajouter que The Scanners sera au Petit Bain en octobre en ouverture de The Darts, moi aussi.
Arnaud, tu accompagnes Mathieu en concert?
Non, je pense pas. Moi, je vais garder la moitié de la chronique de Mathieu. Le début m'intéresse vraiment. Parce que moi, je connaissais pas et donc j'ai écouté comme toi, peut-être pour la première fois quand tu l'as vu au Petit Bain et j'ai exactement le même avis que toi. Mais sur le tout début de la chronique. Rigolo, on avait déjà parlé de groupes chroniqués dans la presse étrangère, anglaise notamment, puisqu'on avait chroniqué Frustration. C'était quelques-uns, notamment Guillaume a précisé que, ou Cédric, je sais plus, que l'album s'était fait défoncer à l'étranger. Quand on cherche sur le net des chroniques de cet album, on en trouve pas mal sur la presse anglaise, et c'est totalement l'inverse. C'est des chroniques dithyrambiques. J'ai vu si on parlait de notes, la talent interplateau, 8 sur 10, 9 sur 10. Et vraiment, moi, on peut se demander pourquoi. Guillaume va s'abstenir sur l'album là, donc je vais prendre sa place et je vais ronchonner. Alors ça commence bien, je suis en fait un peu d'accord avec toi Mathieu, le morceau d'ouverture efficace, entraînant, la mélodie au clavier, on sent quand même que ça va être présent le clavier dès le premier morceau, un peu facile mais ça fredonne assez vite, donc ça rentre dans la tête, il y a quand même de la mélodie, pas beaucoup de nuances et puis ça continue comme ça, ils égrènent les morceaux. Il y a quand même une thématique qui revient, parce que j'ai quand même été un peu voir LP2 et LP1, parce qu'ils se font quand même pas chier sur les titres des albums. Et c'est, ils ont quand même une tendance à piocher dans le rétro-futurisme rockabilly façon soupe aux choux, avec des tenues qui sont franchement dégueulasses. Et c'est décalé, mais c'est assez difficile à digérer. Le mélange des genres... la voix quand même avec un effet vraiment important je te rejoins Mathieu, moi j'ai toujours entendu le clavier est vraiment très très présent sur l'album, il y a des morceaux où il est trop présent et tout ça fait que je me suis quand même vraiment emmerdé à l'écoute de cet album. Je comprends pourquoi Guillaume s'est abstenu, on va lui faire une spéciale dédicace pour le dernier morceau. Je savais pas ce que tu avais avant d'écrire et puis j'ai vérifié. Donc j'ai quand même conclu comme j'avais pensé, c'est La fête est finie que tu vas entendre Guillaume avec des textes en français. Écoute tant l'oreille, il y a un humour qui est ravageur, une mélodie qui est vraiment novatrice, que du bonheur. Et puis, je vais vous laisser dire mieux parce que je ronchonne et visiblement je ronchonne depuis trop d'émissions, alors je me tais.
Ouais, non, les scanners, ils ont tenté de faire la BO d'un voyage spatial, quoi. Mais sans que Bowie soit monté dans la navette pour Mars, ils ont tenté un truc genre Star Wars sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est vrai que Guillaume, tu dis souvent qu'il faut soit de l'originalité, soit de l'excellence. Là, on a plein de bonnes intentions. Il y a une indéniable identité. Ils travaillent leur look. Moi, je trouve ça assez louable, plutôt que d'essayer de s'habiller avec des sièges auto. Ils font un truc, quoi. Ils travaillent le son de leur quartet avec des synthés qui viennent enrober un rock garage assez tatapoum et tout. mais ça va pas jusqu'au bout, quoi. Il y a des morceaux réussis, hein, les deux premiers, là, No Return et Brutal City, par lesquels s'ouvre l'album, fonctionne. Et puis après, l'album marque vite le pas et montre ses limites. C'est juste sympa, sans plus. C'est joyeux, presque dansant. Ça ferait pas de mal à un punk. Il manque un truc pour que le vaisseau scanner s'envole vraiment. Je trouve que ça montre trop ses limites et trop vite pour moi, cet album. Héloïse.
Eh bien, moi, j'accompagne carrément Mathieu en concert. The Scanners, tu l'as souligné, Pierre, c'est un peu du rock'n'roll pour Martien. Des tombereaux synthétiseurs positionnés sur des sonorités punk 77, une proposition musicale hybride mêlant synth punk et garage. Quatre types qui construisent un univers rétro-futuriste à mi-chemin entre la guerre des étoiles et E.T. Il en résulte quelque chose de déjanté, cosmique et drôle, qui a le mérite de nous propulser dans un univers parallèle, ce qui par les temps qui courent entre nous n'est pas du luxe, et je trouve que c'est déjà pas mal pour un disque.
Cédric.
Oui, bah on va être trois.
Au concert.
Évidemment, quand on entend Lyon, on pense tout de suite à des trucs dégueulasses. La Traboule, le vieux Lyon, Klaus Barbie, le catholicisme intégriste, la bourgeoisie réactionnaire ou encore les quenelles de poisson. Mais à côté de ça, il y a plein de choses bien à Lyon, à la fois du côté militant et du côté du rock, notamment autour de Danger House, le disquaire, le fameux disquaire à Lyon qui fait beaucoup de choses très bien. Alors moi, ce quatuor de synth-punk garage à l'esthétique assez soignée, référencée, qui nous revient avec ce nouvel album, j'ai beaucoup aimé. J'étais bien pris dans ce voyage dans l'espace intergalactique. Ça commence fort avec ce premier titre que tu dont tu as parlé, No Return.
No Return. Oh,
putain. Quoi ? Non à l'impérialisme linguistique. Finalement. Donc, ce titre avec ses boucles assez enivrantes, hein, toujours un peu ridicule de danser tout seul dans son salon, mais difficile de faire autrement sur ce titre. On n'est vraiment pas du côté sombre du synthé ici avec ce groupe. Alors c'est clair qu'on est dans un autre style que l'album précédent de Cute Peace, mais tout aussi efficace, je trouve, plus proche de l'influence de Divo, dont on parle quand même beaucoup dans cette émission, qui a quand même pas mal de groupes finalement qui s'en inspirent aujourd'hui. Moi j'aime bien cette voix un peu teigneuse, certes un peu traficotée, mais qui vient couronner... Je trouve un alliage guitare synthé qui fonctionne bien pour moi. Alors, on va pas chercher une critique virulente de la société dans le groupe, mais bon, à Lyon, déjà pas être raciste, c'est fraction ramée rouge, quoi. Là. C'est déjà quelque chose. Mais on a ici de quoi un peu oublier pendant quelques minutes le monde qui nous entoure, et c'est pas rien.
Alors, on va écouter un deuxième morceau de The Scanner, et Mathieu a la gentillesse de choisir un titre en français. La fête est finie.
Bel accent.
Et voilà, la fête est finie des The Scanners et on passe tout de suite à The Shizzle qui sort un album qui s'appelle What a Fucking Nightmare. Et Guillaume nous en a sélectionné un premier extrait, Cry Your Eyes Out. Et ben voilà, ça c'était The Shizzle et c'est Guillaume qui nous en parle.
Ouais, The Shizzle, c'est un groupe de punk de Londres formé pour l'heure de 5 membres, bien que la formation a évolué depuis sa création il y a 4 ans. 5 premiers hippies et un premier album en 2021 et voici leur second, What a Fucking Nightmare, chez le label de Nashville, Pure Noise Records. Les membres du groupe ont tous un parcours musical assez fourni, vous pouvez le voir sur le Discogs. Certains y ont fricoté avec l'EBM et la synth pop et notons la présence parmi eux d'un Toulousain, Momo Bitume, à la basse si j'ai bien compris. Sommairement, je dirais que The Shizzle développe un mélange entre un punk rock old school et Bruce Springsteen, période Lucky Town. C'est du moins l'idée qui m'a traversé l'esprit en écoutant leurs morceaux où s'assimilent constamment deux démarches musicales. Celle d'un martèlement énergique, d'un punk rock bravache mais solide, et l'ampleur lyrique des envolées vocales du chanteur. L'ensemble aboutit à un album excessivement rock, généreux, et pas déplaisant. Bien que je ne sois pas vraiment fan de ce genre d'accoutrement. Il faut dire que l'interprétation est bonne, même si la facture des morceaux est souvent sans surprise une fois qu'on est entré dans la matière. Le groupe enchaîne avec application et conviction des couplets-refrains sur un rythme assez semblable, mais comme ils y apportent le même entrain que mes pierres à nous balancer ces blagues, on se montre conciliant et on applaudit volontiers. Car si le rythme varie peu, la teneur des arrangements présente suffisamment de qualité et même peut revêtir des accents inattendus comme sur Living for Myself ou ça vire légèrement scurduesque, j'oserais dire. Et donc au final, un album de punk rock à l'ancienne d'une certaine façon, mais convaincant et solide, de quoi largement satisfaire les amateurs du genre.
Ah ouais, moi j'ai pas trouvé ça punk rock, j'ai trouvé ça très oi quoi, et dans le chant, tout ça. De toute façon, je trouve que le oi, c'est la maladie viriliste du rock'n'roll quoi. C'est déjà les rockers, ils ont des guitares électriques, des blousons en cuir, des tatouages, ils ont même des crans d'arrêt. Alors si on rajoute à ça cette manière de poser ses couilles sur la table quand ils chantent, bon, c'est trop pour moi. The Shizzle, ce qu'ils font, manifestement ils font bien, mais ça reste trop oi, le chant reste trop viriliste pour moi, et je me suis vite épuisé à les entendre s'époumoner. Mathieu.
Ah, déjà. Ah oui, je pensais que tu prendrais plus de temps pour t'exprimer dessus et dire que t'aimes pas. Alors que là, tu as juste tourné autour du pot, tu as dit hop, ça y est, j'ai tourné, et puis à vous.
Pas bien. Voilà.
Voilà, merci. Effectivement, tu l'as dit, hein, c'est quand même un street punk de série, qu'on peut dire. C'est pas désagréable, ça c'est sûr. Mais là-dedans, il y a pas grand-chose qui me donne la bave aux lèvres à l'idée de les voir sur une scène parisienne. Alors bon, non, rassurez-vous, j'ai pas vu de date encore pour l'instant. Peut-être que ça va venir, mais effectivement, je vois pas ce qui les ferait sortir du lot. Donc je vais parler de la pochette. Puisque la musique me dit pas grand chose, la pochette, je suis un peu embêté parce que à la fois elle m'évoque un petit peu la pochette de The Crack, l'album de The Ruts, mais j'ai en tête un autre album que je n'ai pas retrouvé. Donc si vous avez des idées de savoir sur qui elle a été pompée, parce que enfin voilà, que les choses soient claires, c'est pas l'artiste qui s'en est occupé qui a inventé ça. C'est un détournement d'une pochette existante, mais j'aimerais bien savoir laquelle. Je sais pas, qui est-ce qui pourrait m'aider? Héloïse, peut-être? Non?
Cédric?
Non. Cédric, il parle pas.
Ah, Cédric, il parle pas.
Attendez, non, c'est moi qui parle.
C'est toi, bah vas-y Arnaud, excuse-moi, j'ai perdu mes papiers.
Ouais, ouais, j'avais préparé un truc et en fait ça colle plutôt bien parce que je m'étais dit, Guillaume a toutes les émissions, il nous parle du savoir-faire français et tout leur travers, il les défonce. On fait rarement ça quand même pour les groupes britanniques et c'est un peu quand même ce qu'on a à l'écoute de l'album, c'est... une caricature de ce que peut être le punk, et là en l'occurrence je suis d'accord avec toi Pierre, le high punk, la voix est vraiment pas gentille, assez énervante, et puis on écume tous les poncifs sur le patriarcat, police, la propagande, capitaliste, avec une pinte de bière tous les quatre morceaux, des mélodies très punk breton, le morceau Link for Malsef c'est une caricature, mais bon, passons, il y a des fuck placés à toutes les phrases. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Il coche toutes les cases. Et pourtant, je crois qu'on peut se réjouir, peut-être s'attrister, je sais pas, de voir ce style réémerger. On le voit, on le chronique depuis quasiment 50 émissions quand même. Le punk redevient ou devient, j'en sais rien, mais un style qui marche, qui fonctionne. Les sorties sont pléthoriques. Et les périodes qu'on traverse, c'est peut-être l'une des meilleures choses qui peut nous arriver. Et donc rien que pour ça et pour le titre de l'album, What a Fucking Nightmare, je trouve que ça va tellement bien avec la période actuelle que je suis assez d'accord avec Mathieu et Pierre. Et pour autant, je l'ai écouté plusieurs fois et malgré tous ces travers et toutes ces caricatures, je trouve que l'écoute de cet album m'a fait plutôt du bien les quelques dernières semaines.
Allez, il est temps d'appeler l'infirmière pour s'occuper de Shizzle, Héloïse.
Bon ben, sans surprise aucune, j'ai évidemment adoré cet album, qui se rapproche selon mes propres standards de l'idée que je me fais de la perfection musicale. D'autant qu'il a été validé par Guillaume, alors c'est vous dire s'il est bon. Un son aussi brut de décoffrage que les barres d'immeubles de Tottenham, au roulant de punk, de oi, de street punk et de punk hardcore, qui cause injustice et réalité sociale. Des riffs de guitare qui sonnent comme des parpaings dans la tête, des tombereaux de distro et une section rythmique survoltée, à l'image de son titre What a Fucking Nightmare, et sans nuance, sans concession, sans particulière originalité non plus. C'est une musique pour beugler en devenir sourd, pogoter en trouer ses docks et rêver à une certaine idée que l'on se fait de l'Angleterre. En bref, c'est un disque qui mérite amplement sa place aux côtés des albums de Cockney Reject ou d'Angelic Upstart, un vrai bijou.
Eh ben, on va vérifier ça en écoutant un deuxième extrait de The Shizzle choisi par Guillaume, And See Nothing Yet.
commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Ça, c'était... C'était les Chisels, pardon. C'était les Chisels. On passe à Blacklister. Et Héloïse nous a choisi un premier extrait. C'est Not At All.
Oh,
No Not At All de Blacklister, et c'est Héloïse qui nous parle de Blacklister.
Alors Blacklister, c'est un quatuor de noise rock formé à Leeds, en Angleterre, par Jesus Lizard. Après un album éponyme en 2012, Adult en 2015, puis Fantastic Men en 2020, le groupe revient avec un quatrième disque qui n'en est pas vraiment un, sorti auprès du label À temps rêvé du roi Records. Plus compilation qu'album, le disque se présente comme une digression du reste de la discographie de Blacklister, dont il regroupe les deux derniers hippies et deux nouveaux titres. Il en résulte un concentré de musique rouge sang. Le groupe nourrit une véritable passion pour cette couleur, féroce, corrosive et sarcastique, dopée par les décibels et la distorsion. Classiquement pour un disque de noise, This Is Not An Album est porté par une section rythmique nerveuse, faite de martèlements épileptiques de batterie, de lignes de basse obsédantes et de changements de risque indéssoudable. S'y ajoutent des riffs de guitare aigus et une section vocale beuglonnante. Mais l'originalité du disque réside dans la large place réservée à la dissonance qu'accentue sur certains morceaux la présence d'un sax, un peu comme si les musiciens de Lucrette Milk avaient décidé de monter un projet avec ceux de Godspeed. Personnellement, j'ai été conquise de bout en bout. Il n'y a rien à jeter dans cet album qui constitue une pièce particulièrement appréciable de noise punk bruyant.
Eh ben, Guillaume.
Ouais, bah le titre de ce disque ne serait-il pas un appel à l'aide? En tout cas, il interroge This Is Not An Album by Blacklister. Comme si les Anglais s'étaient vus forcer la main par leur label palois pour le sortir, mais, conservant la main sur le titre à lui donner, s'en sont servis pour signifier qu'ils n'assumaient pas de lui donner l'appellation d'un album véritable. Il faut dire que l'inflation productiviste de sorties musicales n'en finit plus. Après le mois dernier, l'album pas abouti des Silicon Values, fait de brides de leurs différentes épées. Voici maintenant que Blacklister leur enfile le pas et nous sort un pseudo-album qui, là encore, n'en est pas un puisqu'il est l'assemblage de deux EP et auquel s'adjoint deux nouveaux titres. N'eût-il pas mieux valu attendre qu'ils aient pris le temps de fignoler un vrai disque au lieu de nous balancer cet agglomérat? Que les musiciens alignent leur taux de productivité à celui que met Cédric à pondre ses articles, et je suis sûr que nous y gagnerons tous. Ceci dit, que penser de cet accoutrement? Musicalement, le style des gars de Leeds est des plus biscornus. Mélange de post-punk, post-rock, noise et d'indie expérimental, leur composition sonne très bruitiste, jouant énormément sur les distorsions et les larcènes. Même la voix du chanteur est triturée. Il faut dire que deux choses les distinguent particulièrement: l'absence de structure punk dans leur schéma musical et le défaut de parties mélodiques. Sans ces deux éléments souvent incontournables à la musique rock, on devine que la musique des Blacklister ne peut être que déconcertante. C'est le cas en effet, car ces manques renforcent l'aspect brut et presque avant-garde de la plupart des titres, ce que vient renforcer les accents free-jazzesques du saxophone. Sans arrangement punk rock, sans mélodie, leur compo repose sur une structure répétitive sur la base de laquelle les musiciens s'adjoignent pour produire un magma sonore puissant et tumultueux par-dessus lequel la voix du chanteur impose sa présence. L'ensemble ne m'a toutefois que modérément convaincu. Ça sonne cafouillé, désordonné, brouillon, même si en y prêtant l'oreille, on comprend que ça ne l'est aucunement, au contraire. Mais cette atmosphère sonore n'a eu sur moi rien de séduisante. Et à part les deux morceaux les plus martelés du disque, Tech Guy et Melting John, je n'ai pas été convaincu par leur démarche.
Ouais. Moi, je me suis beaucoup ennuyé en écoutant cet album, quoi. Je trouvais ça répétitif. Du coup, je sais pas trop quoi vous dire. Alors, je peux vous raconter une histoire à la place. J'ai rencontré une connaissance, là, un gars qui est allé au Hellfest, au mois de juin de 2024, là. Et il est parti en bande avec des potes. Et sa grande crainte, c'était que les métalleux ne se lâchent un peu à dire des trucs fachos, à arborer des signes et des trucs comme ça, vu l'ambiance politique en France. Et il avait peur que ça dégénère, parce que, me dit-il, il y a des punks qui viennent au Hellfest, et les punks, ils sont tous antifascistes. Et d'après lui, au final, puisqu'il m'a raconté ça après être revenu, tout s'est finalement bien passé. Les punks continuent à faire suffisamment peur pour que personne n'ose exprimer publiquement un quelconque propos raciste ou trop réac ou trop beauf, même au Hellfest. Et donc, voilà la bonne nouvelle. Les punks
punks feraient donc encore peur. Quand tout se barre en sucette, les punks apparaissent comme un rempart aux fachos. Moi, je vous laisse méditer là-dessus. J'ai trouvé que c'était une excellente nouvelle et en ce moment, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Cédric.
Ok. Je voulais revenir d'ailleurs sur Chisel en rappelant quand même qu'ils avaient fait un titre avec Homefront qu'on avait chroniqué ici qui s'appelle Nation, qui est un titre radicalement de gauche, hein, parce que Homefront et Nation ça sent pas bon initialement, mais qui est un super titre que j'écoute régulièrement. Donc si vous voulez rentrer dans Chisel, rentrez peut-être par là, par le côté un peu plus post-punk de l'affaire. Alors, beaucoup de bruit chez Blacklisters, peu de fureur, et surtout beaucoup de bruit pour pas grand-chose, je trouve, finalement. C'est bien fait, c'est indéniable, recherché, calibré, mais d'un ennui redoutable. Le cri strident, quasi systématique, devient rapidement lassant. On a parfois l'impression, sur certains titres, comme sur Leisure Center, par exemple, que le titre est en train de se terminer alors qu'il fait juste que de commencer, quoi. Et je sais qu'ils ont une solide réputation, fer de lance dans le milieu de la noise, mais ça donne surtout l'impression d'une hyper application sans guerre de personnalité. Alors, il y a certains titres que j'ai quand même vraiment appréciés, comme le dernier Personal Training, plutôt dans la lignée de Gila Band, mais je l'ai peut-être aussi apprécié parce que précisément c'était le dernier, quoi, finalement. Donc voilà, j'ai trouvé ça long.
Arnaud, à ton tour, est-ce que tu vas aller sauver les Blacklisters?
J'ai pas beaucoup le choix entre ta chronique, Pierre, où t'as absolument rien à dire sur l'album, Guillaume, qui a tellement de mal à lire sa chronique parce que c'est un ramassis de conneries, que je vais forcément essayer de sauver le bateau. Non, c'est dingue, on a écouté le même album et on en pense absolument pas la même chose. C'est limite digne du clivage actuel en politique, quoi. Ça me fait froid dans le dos. Je trouve que c'est le meilleur album qu'on ait écouté.
On est de gauche. Dans le clivage, on est de gauche.
Non, c'est pour moi le meilleur album de des quatre, là. C'est expérimental, on sait pas où on va. Il y a, alors, après, vous pourriez, si quelqu'un parlait derrière moi, il reprendrait tous mes arguments à l'envers, mais il y a pas de rail, on est surpris, c'est super riche, et alors, je comprends absolument pas, Guillaume, comment tu peux dire qu'il y a pas de mélodie? Parce que moi, j'en ai entendu sur chaque morceau. Alors, c'est pas parce que c'est noise et en effet bruitiste, et parfois un peu gueulard, que il y a pas de mélodie, il y a une trame mélodique dans chaque morceau. Donc on a absolument pas écouté la même chose et il va falloir que les auditeurs départagent en essayant d'écouter si vous tenez le coup, parce que ça fait chier visiblement plein de monde cet album. Pour moi, on est vraiment très loin du couplet-refrain, c'est de la vraie noise expérimentale. Il y a une trame mélodique, des guitares, le morceau The Wrong Way Home est génial, avec, tu l'as dit, une dissonance qui est très présente. Et on est d'accord, Cédric, moi ça m'a fait penser à Gila Band. Alors peut-être pas au niveau, notamment pour le dernier album Gila Band qui était absolument génial, mais ça m'y a fait penser. Moi j'ai aussi pensé à du Slint sur le morceau qu'on vient d'écouter. Et puis bah, j'ai tellement aimé que j'ai été écouter les autres albums de ce groupe, notamment le premier qui est sorti en 2012. Et avec un son radicalement différent, on parlait de ça un peu hors micro, mais de dire que c'est des gars de Leeds, c'est assez dur. Et sur l'album de leur premier de 2012, ça ressemble davantage à du rock hardcore américain. Donc on a quand même une richesse dans ce groupe qui a réussi à évoluer. Le premier, ça faisait penser à Big Black ou Fugazi. Et j'en ai même écouté les suivants. Donc... peut-être que Mathieu pourrait, mais il s'est abstenu, mais je sais qu'il est derrière et qu'il m'applaudit parce qu'il pense exactement la même chose. Donc on n'est pas totalement les seuls à avoir apprécié l'album, mais bon, ça fait 3-2, je crois.
Mathieu, tu veux dire un mot sur Blacklister?
Oui, mais effectivement, moi je me suis abstenu parce que ça fait 5 ans que je les ai découverts et que j'ai remonté le temps et il n'y a pas un de leurs enregistrements que je n'apprécie pas. Alors, Arnaud, je trouve que t'es pas très sympa en dénigrant Leeds. Leeds, c'est quand même la ville d'origine de Gang of Four. Donc, on peut avoir des groupes de Leeds qui inventent des choses, y compris en post-punk.
Non, mais je disais que ça s'entend pas.
Oui, tout à fait. Mais mais effectivement, j'entends bien qu'on n'a pas les mêmes perceptions les uns les autres. C'est peut-être pas du punk, mais il y a quand même de l'esprit dedans. Il y a de la noise, ça c'est sûr. Il y a de l'expérimental, c'est sûr. Si effectivement c'est pas un album cohérent dans la mesure où c'est un conglomérat de EP, allez écouter les albums précédents, les albums qui ont été pensés comme des albums, et vous reviendrez et on en discutera. Mais je pense que c'est un groupe qui vaut le coup.
Allez, on se fait un dernier extrait de This Is Not An Album, le dernier album des Blacklisters. C'est Héloïse, tu as choisi Melting John. Voilà, ça c'était Blacklister, et vu qu'il nous reste un tout petit peu de temps, on va vous parler d'un projet autour du front des musiques indépendantes, un projet qui fait un peu de bien dans la période. C'est Héloïse qui nous en parle, tu nous en as déjà parlé lors de la dernière émission, mais on va revenir dessus.
Oui, à l'orée d'un scrutin fatidique, celui des élections législatives, la scène indé se mobilise face au risque de voir l'extrême droite prendre le pouvoir en France sous la forme d'un front des musiques indépendantes qui se donne pour objet de repolitiser les pratiques dans le secteur musical et les industries culturelles et créatives. À cet effet, une centaine de groupes, dont Syndrome 81, Astéotypie, Astaphord Murds, Maribel ou encore Frustration, que nous avons chroniqué dans Tatapoum, mais également Miss France, Fish Talk et bien d'autres, viennent de sortir En lutte, une compilation antifasciste pour un monde meilleur, publiée en 2 volumes à la veille des 2 tours des législatives, d'abord le 26 juin puis le 5 juillet, en libre écoute sur le Bandcamp du Front des musiques indépendantes. En bref, on lâche rien et nos passes à Anne.
Alors on vous propose d'écouter un premier extrait de cette compilation antifasciste pour un monde meilleur. C'est Miss France avec un titre qui s'appelle Convergence, et c'est sur le premier volume de cette compilation.
Voilà, c'était Miss France avec un titre qui s'appelle Convergence. C'était sur la compilation produite par le Front des musiques indépendantes en lutte compilation antifasciste pour un monde meilleur. Toujours, vu qu'il y a deux volumes, on vous propose d'écouter un extrait du volume 2 de cette opulente compilation. Ce coup-là, on vous propose Syndrome 81 avec Avenir. Voilà, c'était Tata Poum, épisode 50, avec ce soir les bobo punks de la critique rock qui iront pogoter à s'en trouer les docks pour oublier leur peine. C'était donc Mathieu, Arnaud, Cédric, Héloïse, Guillaume, Marion et Bibi. Bon courage pour ce qui vous reste à supporter de dimanche soir. À bientôt, ciao.